RCF. Bienvenue à toutes et à tous en direct ou en podcast dans ce 16e numéro de la 7e saison de Côté Ouvert, votre rendez-vous consacré à l'actualité du rugby à 15 sur RCF Pays d'Aude avec la complicité de RCF Pays Tarnais et également diffusé sur RCF Occitanie en DAB+, rendez-vous qui vous est toujours proposé en partenariat avec le site Vibré Rugby. Aujourd'hui, dans notre petit multiplex, j'insiste sur un petit entre l'Aude, le Tarn et le Piémont des Alpes, les courageux ont répondu à l'appel. Outre votre serviteur, j'ai le grand plaisir d'accueillir au pied des Alpes Monsieur Fred Protin. Il est toujours fidèle au rendez-vous, lui. Salut Fred.
Salut Patrick et bonjour à tout le monde.
Un grand plaisir également, celui de retrouver le globe-trotteur de l'Ovalie, Monsieur Renaud Sorel, aujourd'hui depuis Albi. Salut Renaud.
Bonjour à toutes et à tous.
Et puis, il fallait un doigt, donc on est allé le chercher au sein du staff de l'US Carcassonne, invité prestige aujourd'hui. C'est Mathieu Cidre que nous sommes ravis de retrouver sur cette antenne. Bonjour Mathieu.
Bonjour tout le monde.
Et enfin, vous le savez, pour mettre un nom de cette émission, il faut un homme au doigt de fée, et c'est Gégé Boson, Jérôme Boson, qui sera aux manettes aujourd'hui.
Bonjour Patrick et bonjour à tout le monde.
Au menu de la table de Côté Ouvert aujourd'hui, c'est un menu très très simple qu'on vous propose. D'abord, un retour sur la performance majuscule de ce week-end. C'est l'US Carcassonne qui l'a signé en Pro D2, toujours en lutte pour le maintien avec une très belle victoire. Et puis, actualité oblige, on fera un détour par le tournoi des Six Nations qui s'est achevé ce dimanche sur un grand chelem de l'équipe d'Irlande. Mais avant ça, nous, on a des racines carcassonnaises. On sait que notre émission, elle est là. Elle est née du côté de Carcassonne sur RCF Pays d'Aude. Et donc, on ne pouvait pas passer sous silence cette belle performance de l'US Carcassonne, une équipe un petit peu dans le dur ces derniers temps et qui joue le maintien, on le sait, à 6 journées de la fin. Eh bien, les Carcassonnais, on va le dire, on va employer un mot. Je pense que Mathieu ne va pas nous contredire. C'est tout simplement un exploit que ces garçons ont accompli face à l'un des gros bras de Pro D2. Une victoire bonifiée, 37-9 face à Carcassonne. Mathieu, on va faire un petit retour sur le match. Peut-être commencer par les conditions météo avec véritablement un vent à décorner les bœufs.
Ouais, forcément il y avait du vent, mais on s'était préparé parce que toute la semaine ça avait, les conditions c'était celle-ci. On s'était préparé, on est aussi habitué quand même à avoir du vent, donc forcément les conditions il a fallu s'adapter. Mont-de-Marsan également, alors peut-être ils ont moins l'habitude que jouer avec du vent que nous, mais voilà, stratégiquement on voulait démarrer face au vent. Voilà, on voulait démarrer face au vent pour être un peu plus entreprenant et ne pas être dans l'occupation, mais être plus dans l'action.
Moi, j'aimerais quand même qu'on revienne sur deux choses. L'état d'esprit, parce que tes gars, j'allais dire, ou les joueurs de l'USC, ils ont fait montre d'un état d'esprit remarquable de la première à la dernière minute et du numéro 1 au numéro 23. Et puis, certains critiques trouvaient que le jeu carcassonnais était restrictif ces derniers temps. Et là, on a trouvé une palette de jeux, on va dire, ample et complète. Quelqu'un qui n'était pas au courant ne pouvait pas dire que l'US Carcassonne joue le maintien actuellement dans le championnat avec la copie rendue.
Ouais, alors...
Ça me permet, Mathieu, mais...
Non, mais sur le premier point, l'état d'esprit, j'ai envie de te dire que c'est la base, c'est le SMIC. Quand tu joues rugby, encore plus quand tu es en position de relégable, hein, l'objectif, c'était vraiment de sortir de cette zone rouge, alors de manière définitive, même si on sait que voilà, d'un week-end à l'autre, on peut très rapidement y retourner parce que on ne s'est pas donné encore un matelas confortable pour la fin de saison et acquérir le maintien. Mais l'état d'esprit, ouais, on avait beaucoup misé là-dessus, là, dans le sens où on récupérait aussi des joueurs importants. Et je pense devant à un joueur comme Romain Manquia, qui est très important dans tout ce qu'on représente, les valeurs du club, son ADN, et puis son état d'esprit de combattant, de conquérant, de meneur. Et ça a été un véritable relais personnellement pour moi au niveau de la conquête, mais aussi pour l'équipe. Ah, ça, c'était important. Et la deuxième chose, c'est tu parlais d'exploit aussi en préambule. Et c'est vrai que forcément, les pronostics ne nous étaient pas favorables, hein, liés forcément au parcours. Mais justement, on a dit aux joueurs, allez le chercher, cet exploit. aller le chercher tout simplement. Personne ne croit en nous. Il n'y a qu'une. On peut s'en sortir que par nous-mêmes. Et ça nous a resserré tout ça. Ça nous a resserré. On avait pris 40 points à Nevers.
Ouais.
Le contenu avait été très très médiocre. Donc voilà, on a. Les joueurs ont montré vraiment en gros, une grosse force de caractère face à une équipe, ce qui fait pratiquement de mieux ces dernières saisons, notamment la saison dernière qui était Mont-de-Marsan. Donc voilà, et c'est un match abouti dans le sens où voilà, même si on avait gagné des rencontres parfois un peu tirées par les cheveux, mais celle-là, je pense qu'il n'y a pas l'ombre de doute dans le sens où on a été dominateur et devant sur la conquête, mais aussi qu'on a été capable d'enchaîner des temps de jeu, très peu de pertes de balles, ce qui nous a permis de dynamiser, d'enchaîner les temps de jeu, une défense hermétique. Donc, quand il met à l'esprit qu'un conquête était bien,
ah ouais.
forcément c'est plus simple à jouer au rugby. Voilà, ouais. Maintenant, c'est le combat qu'on y a mis. Je crois que c'est quand tu mets le combat et que tu prends l'ascendant psychologique, les choses, elles se mettent en place.
Ouais, d'ailleurs, tu sais, Patrick Millet, j'allais dire ton homologue, ou en tout cas le manager Montois, lui, il a en zone mixte au micro de Luc et de Joël, que tu connais aussi, hein, nos copains, il a clairement dit, on s'est fait cabosser ce soir. Donc, je pense qu'avec cette formule très lapidaire, il avait tout résumé. Alors, moi, je vais me retourner un petit peu vers Fred et vers Renaud, parce que Carcassonne, comme l'a dit Mathieu, tous les week-ends, c'est encore sur le fil où c'est tendu pour toutes les équipes là, de bas de tableau. Vous êtes d'accord, j'imagine, Fred, qu'il y a à peu près maintenant trois équipes qui sont en lice pour cette place de premier non renégable, c'est-à-dire pour avoir la 14e place ou mieux même la 13e. On va dire que bon, Massis est cuit, donc il reste Carcas, Soyo et Montauban dans le duel. Fred, toi, avec tes dons de voyant et l'extra-lucide, mais surtout ta analyse des chiffres, ça va être un combat jusqu'au bout, non?
Oui, non, mais forcément, ça va peut-être se jouer à la dernière minute, mais moi je pense qu'avec la performance de Carcassonne ce week-end, ils ont quand même marqué l'esprit des autres équipes, parce que battre Mont-de-Marsan avec le bonus offensif, alors que Mont-de-Marsan sont dans le haut du tableau, incontestablement, là, cette victoire va relancer Carcassonne. Bon, pour avoir suivi le match Grenoble, soyons Angoulême, la première mi-temps de Grenoble était très bonne dans le contenu, dans la possession. Bon, s'il n'y avait pas eu ce déchet en touche catastrophique, je pense que Grenoble avait la possibilité de gagner, et Soyo développe pas un jeu comme celui de Carcassonne. Quand on voit qu'au bout de trois temps de jeu, ils font tomber les ballons, je pense que Carcassonne a un niveau de jeu et d'attaque supérieur, même si par le passé, bon, on a vu des matchs qui n'étaient pas aboutis. Moi, je vois aussi Montauban. Montauban perd encore une nouvelle fois. Là, ils sont sur une série de défaites. On se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Hein. Donc, ouais. Montauban, ils sont vraiment très, très, très mal partis. Hein.
À ce sujet, Renaud, est-ce que tu n'aurais pas coché, toi, sur ton calendrier, en tant qu'observateur, une 29e journée de Pro D2, je vois Mathieu qui me fait un petit sourire, un certain Montauban-Carcassonne. Est-ce que ça ne peut pas être une des clés du maintien, cette rencontre-là?
Mais... Ouais, parce que juste pour revenir sur la journée, quand même, les quatre derniers, les quatre recevaient, et il y en a trois qui recevaient des gros. Et la seule surprise, enfin, ça me fait offense à Béziers qui a plus rien à jouer, mais disons que sur un pari entre Carcas Mont-de-Marsan et Montauban Béziers, si tu veux, sur un match à la maison, j'aurais peut-être mis une piécette sur Montauban, ils vont l'avoir plus facile. Donc Montauban, effectivement, est pour moi dans une très mauvaise situation. Ils ont cette réception de Carcassonne qui va être primordiale, mais je pense qu'il ne faut pas qu'ils occultent les quatre matchs qu'ils ont avant, et notamment, bon, ils vont aller à Agen. C'est pas bien, je pense, pour se refaire le moral. Et après, ils vont recevoir Aurillac et Rouen. Et ça va être très très difficile. C'est une équipe, à la différence de Carcassonne, on sent qu'il n'y a pas d'unité. Carcassonne, on sait que la présidence change, mais il n'y a pas dit, il y a pas si on descend, il va se passer quelque chose. Je crois que le manager, Mathieu me contredira, a dit je resterai. Je crois que Jean-Marc Coé a dit je resterai quoi qu'il advienne. Montauban, dans la dépêche de lundi, tu as eu un article du président Maillard. Qui était discret, qui commence à mettre la pression sur ses joueurs. Alors, est-ce qu'il l'a déjà fait en interne? Mais quand tu mets la pression via la presse, je trouve que c'est jamais, enfin, Mathieu nous en dira peut-être quelque chose, c'est jamais très très bon. Il doit les rencontrer aujourd'hui, mardi, et il était évasif quant à son avenir, c'est toujours dans la presse. s'il y avait relégation. Donc effectivement, cette 29e journée, ce match-là va être, je pense, le temps fort de l'avant-dernière journée du championnat. Mais voilà, c'est Montauban et comme le disait Fred, sur une pente descendante. Je pense à la différence de Essoyaux et Carcassonne, qui savent qu'ils ont des finales tous les week-ends et qui appréhendent ces finales tous les week-ends.
Mathieu, tu nous
J'étais un
écoutes
peu long, je m'excuse.
patiemment. Ouais, donc Mathieu, tu nous écoutes patiemment. Et est-ce que c'est pas une erreur de notre part de déjà se projeter sur la 29e et faire ce que vous dites, qui est souvent de la communication, on prend match après match. L'erreur, ça serait de vouloir se projeter trop tôt sur ce match clé. Je pense qu'il faut digérer les 6 rencontres les unes après les autres, non?
Ouais, ce serait une erreur et surtout ne pas être focus sur le présent.
Ouais, c'est ça.
Donc, forcément, on y pense parce que le calendrier, on l'a depuis un petit moment et on essaie de. Ouais, même si on ne le partage pas avec les joueurs, nous, on anticipe les scénarios, ce qui pourrait arriver, parce qu'il faut toujours avoir un temps d'avance. Mais j'espère vraiment qu'à la J29, que le maintien soit acquis. Mais pour ça, pour qu'il soit acquis, la J29, il faut faire le job sur la journée qui va arriver. Donc, et c'est ce qu'on a dit aux joueurs ce matin. Déjà, premièrement, on les a félicités encore une fois pour le match. Maintenant, si on veut durer sur la fin de saison et qu'on soit performant, ben la performance, c'est savoir les capacités de se remettre très rapidement en question, rester humble, parce que ce serait la plus grosse erreur de manquer d'humilité, surtout quand on voit notre championnat, enfin, notre saison. Sur la plus grosse erreur. Donc, on remet les compteurs à zéro et là, c'est Béziers. Et voilà, on sait que quand tu luttes pour le maintien, le moindre point peut être décisif. Donc, c'est bien de te préparer. On a soldé Mont-de-Marsan. Maintenant, on tourne la page et on avance. Et c'est Béziers. Et après Béziers, il se passera d'autres choses. Mais chaque point aura son importance. Donc, on va se déplacer à Béziers avec la même préparation que l'on a mis contre Mont-de-Marsan. Et on sait que l'environnement sera différent, l'atmosphère sera différente, l'arbitre sera différent, le jeu voilà, il y a tout qui sera différent. Donc, remets-toi en question, travaille et sois déterminé à sauver ta saison.
Eh bien, écoute, sur ces belles paroles, nous, on ferme la page Pro D2 et puis on va ouvrir la page Tournoi Destination. Allez, très très vite, et donc il ne vous a pas échappé que ce week-end, on clôturait justement ce tournoi version 2023. Rapidement, les résultats de la 5e journée, la France a fait le job face au Pays de Galles, 41-28 devant plus de 5 700 000 spectateurs en moyenne, donc une part d'audience qui a frôlé les 50% à ce moment-là de la diffusion. Écosse-Italie, une victoire des Écossais, mais encore nos copains italiens nous ont montré qu'ils avaient quelques arguments à faire valoir, 26-14. Et l'Irlande qui est venue à bout de l'Angleterre, mais ça n'a pas été aussi clair que ça. Si je n'ai pas mis de bêtises sur mon conducteur, c'est 29-19. Ça nous donne au classement, messieurs, première et surtout un sacre et un grand chelem à la clé, je crois le quatrième de son histoire, c'est l'Irlande 27 points avec la fameuse bonification qu'on donne à celui qui fait le chelem. La France deuxième 20 points, l'Écosse troisième 15 points, l'Angleterre 10 points, quatrième Pays de Galles 6 points et pour finir l'Italie un petit point et cuillère de bois. Donc les garçons, mais on va s'entreprendre un petit peu un semblant d'analyse peut-être sur l'Irlande pour commencer, messieurs, une Irlande sacrée. Et je me tourne vers Renaud qui va faire très vite un titre que mérité. Je pense que personne ne va dire le contraire.
Ouais, rien à dire. Rien à dire. Ils ont leurs deux temps forts contre l'Angleterre, même si ça a été un petit peu plus difficile parce que l'Angleterre sortait de sa déculottée face à la France et devait montrer un autre visage qu'il y a une semaine à Twickenham. Voilà, et surtout le match contre la France où ils ont été vraiment, ils les ont cabossés, ils les ont franchis, je sais plus si c'est 5 ou 6 fois ou 7 ou 8 fois, enfin, ça a été un très très gros match, donc il n'y a rien à dire, c'est mérité, c'est un prétendant au titre mondial, pas comme la France et comme d'autres équipes, mais c'est bravo, franchement, c'est une très 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 belle équipe.
Mathieu, l'œil du professionnel, l'œil de l'entraîneur, l'œil du spécialiste, pour toi, les clés du succès sur une équipe comme l'Irlande, le talent des joueurs, mais aussi quand même l'énorme travail qu'il y a autour, non ?
Ouais, mais oui, c'est une fédération qui travaille très bien. Ils n'ont pas énormément de licenciés, mais qui travaillent bien. Ça se voit aussi sur leurs équipes, sur les équipes jeunes. Hein, il me semble, ça bosse bien. Alors, j'ai pas toutes les clés. Mais tu vois, pour revenir un petit peu à la performance de l'Irlande sur son tournoi, c'est une équipe qui perd jamais le fil. Tu vois, au-delà des capacités, tu vois, des joueurs, au talent des joueurs, c'est une équipe qui est lucide, qui garde le contrôle même sur les temps faibles et qui est capable de saisir le momentum du match. Voilà, et quand il faut marquer, il faut engranger, ils sont capables de saisir le momentum et bam, de suite d'un coup. Voilà, c'est la marque de fabrique des grandes équipes. Voilà, il y a des fois où tu fais le dos rond, tu es sur les temps faibles, mais bam, tu as une occasion, tu marques et à partir de là, tu te construis. Tu construis aussi la pression sur l'équipe adverse et tu arrives à la dominer, quoi.
Très clinique, ça, ce qu'ils font en plus, c'est très propre, quoi.
Ouais, mais après, ça, c'est le modèle un peu anglo-saxon. Mais ouais. Si tu veux, voilà, ils arrivent, ils insistent et puis ils sont déterminés dans leur. Dans leur schéma, tu vois, ils sont vraiment cette notion de discipline. Mais quand je te parle de discipline,
ouais, c'est de respect du plan de jeu, quoi.
Prévu de travailler, etc. Moi, je suis vachement admiratif de tout ça, quoi.
Fred, comme le disait Renaud, tu en fais toi aussi un client, j'allais dire, ou en tout cas un prétendant au titre mondial, cette équipe d'Irlande.
Ben forcément, hein, ils sont numéro un mondial. Donc, c'est logique de voir ce pays parmi les favoris pour la Coupe du Monde, ça c'est clair. Et puis, au niveau de leur jeu, moi, c'est le pragmatisme, c'est la régularité, c'est la constance. Quels que soient les joueurs sur le terrain, on pratique le même rugby, on est rigoureux, on est propre, les enchaînements se font rapidement, tous les joueurs se trouvent, il n'y a pas de trou d'air, il n'y a pas de moment faible, même quand on fait rentrer 3-4 joueurs. Ça, je trouve ça remarquable. Alors après... Les Français qui les ont joués chez eux, donc cette année, ont perdu, mais on les a trouvés, les Français émoussés, fatigués. Après les 15 jours de repos là, qu'ils ont eu et leur match fabuleux contre l'Angleterre, donc on a senti qu'on retrouvait un petit peu du physique, un petit peu du jus. Alors, est-ce que la Coupe du Monde, j'espère que les Français seront dans un état d'esprit un peu de joueurs non émoussés. Mais ça n'empêche que l'Irlande a pratiqué un rugby vraiment extraordinairement bien construit. Donc ça, c'est leur point fort.
Mais écoutez, puisqu'on parle un petit peu des Français dans ta réponse, Fred, t'as dévié. On va peut-être justement regarder un autre potentiel prétendant au titre mondial. Ah ben ouais, moi je pensais qu'il fallait faire aujourd'hui ce petit retour sur le tournoi des Bleus. Une question simple pour chacun avec une réponse simple, je ne vous demande pas de développer. Ce tournoi, alors l'année dernière on avait le sacre, on avait le chelem, donc on avait eu tout, on a vu le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière. Donc par rapport à ce tournoi cette année, Renaud, réussite ou ratage? Pas besoin de développer, juste ta réponse.
Réussite.
Mathieu, une réussite, un ratage?
Réussite.
Et Fred?
Oui, réussite. Hein. Malgré les trois premiers matchs un petit peu en dedans, mais c'est une réussite. Hein.
Ouais, donc justement, ce tournoi réussite, une fois de plus, malgré les blessures, malgré les aléas, peut-être ce côté un peu de fatigue, etc., on a une fois de plus vu la richesse du vivier français. Renaud, ce vivier, il est présent. On a des gens qui arrivent, qui ont été pistés par le staff. Ils font pas beaucoup de bruit et ils se mettent au niveau du collectif, quoi.
Non, c'est vrai qu'on a, depuis, j'ai un certain âge, voire un âge certain, j'ai pas souvenir avoir eu à quasiment tous les postes, bon, à part numéro 9, où on a pas un 9, on a un extraterrestre, éventuellement un 8, enfin, je sais pas ce qu'en pensera Mathieu derrière, le du spécialiste, mais tous les postes sont doublés, triplés, quadruplés, quintuplés, enfin, tu perds Jelonche, tu te dis c'est la fin du monde, et puis 15 jours après, tout le monde l'a oublié, le pauvre Jelonche qui va en profiter pour se soigner tranquillement. Donc c'est chouette. Maintenant, il va falloir prier le petit Jésus tous les jours qu'à chaque journée du championnat, il n'y ait pas une rupture des tendons du biceps ou des ligaments croisés, mais ça, ce sont les aléas. Non, il y a une très très bonne, très très belle richesse. Et moi qui vois le mal partout, je suppute le staff. Parce qu'on a dit, voilà, il y a eu un pic de forme au moment de l'Angleterre, de ne pas avoir fait des tests au niveau de la durée de la préparation physique pour préparer l'échéance qui arrive dans quelques mois. Mais ça, c'est moi qui dis ça. Il y a qui que truc.
Mathieu, cette richesse du vivier, ça veut dire aussi que les clubs pro, et j'inclus clairement le pro des dedans, bossent bien et offrent beaucoup d'opportunités au sélectionneur national et à son staff élargi. Parce que rappelons-le, Fabien Galthié, il n'est pas tout seul. C'est une vraie, j'allais dire, une armée mexicaine autour de lui. Il y a vraiment du monde, quoi.
Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'hésitent jamais à faire émerger des talents. Tu vois, et ça, c'est vraiment important parce que c'est sûr que tu peux avoir des générations plus importantes des joueurs qui vont arriver, c'est des générations. Mais aussi, ils ont cette capacité, quand même, le staff, à pas hésiter à lancer des joueurs, même de Pro D2. Et c'est vrai qu'il y a une paire d'années, il n'y a pas si longtemps que ça, avant c'était Galtier, etc. Tu savais plus ou moins qui c'est qui allait jouer avec l'équipe de France. Et même si les mecs ne faisaient pas les perdre, c'était toujours les mêmes. Ils étaient là, et on avait du mal à faire émerger les joueurs qui avaient des rendements honorables en compétition, et que ce soit en top 14, voire en Pro D2. Et aujourd'hui, la richesse, c'est que voilà, tu n'hésites pas à lancer des joueurs, et surtout aussi à challenger aussi certains mecs. Et ce qui est important, c'est cette capacité à trouver le bon joueur qui va émerger. Parce que tu aperçois qu'il y en a pas mal de bons joueurs. Hein. Et
Très
tu
beau,
vois des
ouais.
mecs qui sont dans les listes, tu vois des
Ouais.
mecs qui sont dans les listes, tu dis, okay, quand il y a 45 joueurs, quand tu vois un tel qui repart en club,
Ouais.
bon, les mecs qui sont impliqués, ils arrivent à impliquer et concerner pas mal de monde, quoi. Ça c'est important. Hein.
Alors Fred, de ton côté justement, est-ce que toi, tu as un nom pour toi, une révélation ou une confirmation sur ce tournoi côté français?
Alors, une révélation, moi je dirais le petit du Mortier, là, à l'aile, c'est vraiment, moi il m'a épaté, il est très bon, il est très bon en club, il est très bon avec Lyon, et c'est un des, je crois que c'est le meilleur marqueur, un d'essai ou deuxième, je ne sais plus, en top 14, mais là il a véritablement marqué des points à son poste, hein, défenseur, attaquant, et puis bon, la confirmation, moi j'aime bien Greg Aldrit. Vraiment, là, on l'a retrouvé. J'étais heureux de voir qu'on retrouvait Aldrit avançant sur chaque ballon. Ça, c'est vraiment un point important. Moi, je pense que c'est une pièce vraiment maîtresse.
Renaud, moi j'aimerais t'envoyer vers un certain arrière du Stade Toulousain, dont le prénom serait Thomas et le
Oui.
nom de famille Ramos. Est-ce que là, on a
Mazamétaine
eu,
d'origine, un
hein?
Darnais.
Et
Et
oui,
ouais, en
mais
plus.
on a eu là aussi avec Thomas Ramos une magnifique confirmation. Et Galtier lui a donné les clés du camion là pour un moment. Enfin, en tout cas pendant le tournoi, il l'a pas fait sortir sur le dernier match. Il y avait un signal fort envoyé, non?
Ben, souvenons-nous d'il y a un an, il venait au rassemblement, comme dit Mathieu, il repartait en club, c'était la question, jouera, jouera pas, il était 24e, en costardé, etc. C'est un mec qui est tout le temps challengé, même en club, et il arrive, il a cette force-là de, à un moment, dire, mettre tout le monde d'accord.
84
Donc,
points, je crois, sur le tournoi, c'est ça?
ouais, voilà. Donc là, voilà, c'est un gars qui a du bulbe, on ne va pas lui expliquer le rugby, il est bon à peu près à tous les postes où on le met parce qu'il est souvent trimballé. Et ben, pareil, espérons que dans quelques mois, il sera au même pic de forme qu'il a été pendant ce tournoi-là, et même pendant la tournée, hein, parce que il a été prépondérant aussi pendant la tournée d'automne. Et là aussi, réjouissons-nous qu'on ait un Thomas Ramos et Melvin Djaminé en réserve de la République, prêt à bondir.
Mathieu, le
C'est
temps
chouette.
file à une grande vitesse. Est-ce que toi, tu penses que ben, les Bleus, maintenant, à 5 mois du Graal, j'allais dire, de la Coupe du Monde, en tout cas de l'ouverture de la Coupe du Monde, est-ce qu'on a une équipe qui est prête et qui est sûre de ses forces, même si elle a des faiblesses encore, c'est une équipe qui est prête pour affronter les autres nations mondiales?
Moi, je pense vraiment que oui. Je pense vraiment que oui. Et puis, je suis un peu persuadé et je sais comment ils travaillent un petit peu au niveau du staff. Que leur feuille de route, elle est tracée, elle est claire, ils savent où ils veulent aller. Et ils ont tout scénarisé. Je pense qu'ils ont tout scénarisé. Quand je te parle de scénarisé, c'est les éventuelles compétitions, les éventuelles blessures. Il y a tout qui est calculé. Donc ils ont un temps d'avance et ils savent comment. Ils sont beaucoup sur du prédictif. Et je pense qu'ils sont vraiment bien programmés à ce que l'équipe de France soit championne du monde. Tout simplement.
Bon, écoutez, messieurs, sur ces belles paroles de Mathieu qui nous dit que l'équipe de France est bien programmée, maintenant c'est place aux joueurs et place aux talents. Nous, on va souhaiter un très bon appétit à nos auditeurs, à nos auditrices, aux fidèles de Côté Ouvert. On se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles aventures. Merci, les amis. Et puis, Mathieu, ben, le meilleur pour la suite pour l'US Carcassonne, puisqu'il y a déjà, comme tu le disais, une échéance ce week-end du côté du stade Raoul Barrière. Bon, moi, je dis toujours la Méditerranée parce que je suis un vieux et que j'ai l'habitude d'appeler ce stade la Méditerranée. En tout cas, on sait que le contexte sera particulier et on vous souhaite à tous le meilleur. Salut à tous.
Merci.